Bonjour, nous allons faire une lecture dans Matthieu 23, 11 maintenant. Alors, Matthieu 23, 11, c'est Jésus qui parle et qui dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Amen. Amen. Ce soir, je prie que le Seigneur nous aide à savoir qui nous sommes. Je demande vraiment à Dieu le Père que chacun sache qui il est et se mette à sa place. Je demande cela, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Jésus ne dit pas qu'il n'y a pas des plus grands et des plus petits. Il dit simplement que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ces paroles de Jésus, elles contredisent l'idée que la plupart des gens se font du service. En général, c'est l'inférieur qui sert le supérieur, n'est-ce pas? Le petit sert le grand, voilà, c'est comme ça. Mais ici, Jésus parle d'une autre sorte de service. On a vu dans l'histoire des gens se mettre au service de personnes qu'ils haïssaient afin de les attirer sur des chemins où c'était évident qu'elles allaient se perdre. Il y a de tout. Et ces personnes qui étaient servies, non seulement ne se doutaient de rien, mais elles se félicitaient aussi d'avoir des serviteurs aussi zélés, aveuglément. Zélés, oui, zélés, pour satisfaire quoi? Leurs ambitions. Hein? Pour eux, elles étaient zélées, ces personnes qui servaient, pour satisfaire les caprices de leurs supérieurs, ou leurs mauvais instincts, vous comprenez? Donc, leur moi inférieur. Et c'était la meilleure façon de conduire ces aveugles à la ruine. Maintenant, vous prenez ça dans l'autre sens et vous regardez un peu ce que Jésus a fait. Est-ce que ces vrais serviteurs font? Alors, qui en réalité était le maître? Qui en réalité était le serviteur? Jésus y répond à cette question quand il dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Ça demande réflexion. En effet, seul celui qui a une âme noble et généreuse et pure sait non seulement que c'est le moi supérieur qu'il doit servir chez les autres, mais aussi comment le servir. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on serve leur moi supérieur. Ils se sentent vexés, ils se sentent rabaissés. Ils préfèrent qu'on serve leur moi inférieur. Ils se sentent flattés. Je vous l'assure, il faut être très grand pour se mettre au service du moi supérieur des humains. Et celui qui est capable de cela ne se sent jamais diminué. Pourquoi il ne se sent jamais diminué? Parce que sa grandeur est celle de l'Esprit de Dieu. Pensez au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se sent jamais humilié quand il pénètre la matière pour l'éclairer. Le Saint-Esprit ne se sent jamais humilié quand il pénètre la matière pour la vivifier. Mais quand il n'est pas reçu, quand il est attristé, ben il s'en va. Il fuit. Celui qui est véritablement grand, il accepte de se mettre au service des autres pour les aider à voir plus clair, pour les aider à trouver les meilleures solutions à leurs problèmes. Et très souvent, celui qui est véritablement grand, véritablement sage, les problèmes des autres, ça leur paraît vraiment pas grand-chose. Et voilà pourquoi Dieu les envoie pour aider ceux qui sont submergés par les problèmes. Vous savez, Quand j'ai commencé à travailler à Teen Challenge avec Bill Williams dans les années 70, alors on avait des jeunes hommes, des jeunes femmes qui venaient avec des problèmes de drogue et on leur faisait passer ce qu'on appelait le poulet froid, c'est-à-dire on les sevrait, on leur veillait sur eux, on était avec eux nuit et jour. Et quand ils étaient débarrassés physiquement de leur drogue, ils se sentaient bien. Ils restaient avec nous quelques jours, on leur enseignait des principes divins, et quand ils se sentaient bien, au bout de quelques temps, eh bien, ils voulaient partir pour aller faire comme nous on faisait, comme nous on avait fait avec eux. Mais ils en étaient parfaitement incapables. Et quelques semaines plus tard, on les retrouvait de nouveau drogués au bord de la Seine. C'était au bord de la Seine que nous avions notre centre. Voilà. C'était toujours la même chose, toujours la même histoire. Alors ils revenaient au centre de réhabilitation et puis on recommençait le travail. Ils avaient fait une expérience, alors là ils se mettaient à écouter avec plus d'humilité et à nous croire. Avant ils disaient « mais j'en sais autant que vous, maintenant Jésus m'a délivré, je peux faire ça aussi bien que vous » et puis voilà. Bon. Alors on essayait de leur expliquer, ils ne voulaient pas écouter donc on les laissait faire. Jésus fait la même chose. Vous avez un vrai sage, il ne craint pas de s'abaisser au niveau des petits, des faibles, des ignorants. Un vrai sage, il sait que rien ne le fera descendre du sommet intérieur qu'il a pu atteindre. Et si un jour il quitte ce sommet, ça ne sera pas de la faute des autres, ça sera sa propre faute. Ça, c'est clair. C'est parce qu'il aurait été faible, il aurait été négligent, il aura manqué de vigilance, il aura manqué de discernement. Voilà, mais il ne faut pas accuser les autres, ce n'est pas la faute des autres. Voilà pourquoi Jésus, quand il était sur cette terre, un être humain qui est un modèle parfait pour nous, le modèle, Jésus était grand parce que tant qu'il était sur cette terre, en tant qu'être humain, se plaçant comme notre modèle, il a su se faire petit. Il n'a jamais exigé qu'on s'incline devant lui. C'est lui qui s'est fait l'humble serviteur des autres. Celui qui parvient à s'élever spirituellement ne doit pas prendre prétexte de sa grandeur pour s'imposer aux autres. Plus il est élevé, plus il doit se manifester avec humilité. Ça ne veut pas dire que ça devient une lavette. Il dépasse les autres avec sa force spirituelle, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Aucun savoir, aucun pouvoir spirituel ne donne le droit de s'imposer aux autres. Alors que chacun monte aussi haut qu'il en est capable, mais seulement dans sa vie intérieure, mes frères et sœurs. À l'extérieur, il doit être le premier à faire preuve de renoncement. Celui qui veut devenir sage, qu'il commence à dominer sur les cellules de son propre corps. Vous savez, chacun de nous, nous avons en nous des millions de petits serviteurs, nos cellules sur lesquelles on peut exercer notre autorité, pour que ces petits serviteurs contribuent à notre santé physique, spirituelle. Mais partout ailleurs, nous devons nous manifester avec simplicité. Tu sais, c'est pasteurs qu'on ne peut pas aborder. C'est incroyable, ils ont des gardes du corps, ils ont des... Vous voulez prendre un rendez-vous avec un pasteur, vous devez vous y prendre 6 mois à l'avance. C'est des stars maintenant. L'autre jour, je vous parlais de fuite. La fuite de David, qui a dû fuir son palais, de Joseph, Marie et l'enfant Jésus qui ont fui Israël. Et puis je vous parlais aussi de nous qui fuyons le château. Celui qui fuit, il sait qu'il donne du pouvoir à Saül, à Hérode, etc., etc. Celui qui fuit, il donne plus de pouvoir à celui qui, en fait, ne le mérite pas. Il fuit par sagesse. Parce que l'agressivité est irrationnelle. Je vous expliquais ça l'autre jour. Alors il renonce, il se retire. Ça ne l'abaisse absolument pas dans son niveau intérieur de spiritualité. Il renonce, il se retire jusqu'à ce que son adversaire soit épuisé, qu'il ait épuisé son énergie. Parce que c'est sur sa propre énergie qu'il agit. Bien sûr, il croit que c'est l'énergie du Saint-Esprit, mais non. Le sage ne fuit pas par lâcheté. La fuite est juste un moyen de défense. On ne fuit pas par peur. Quand on fuit par peur, cette fuite-là, elle doit être juste de la sagesse, de l'humilité, du renoncement. Cette fuite, elle est la preuve de la grandeur spirituelle de David, elle est la preuve de la grandeur spirituelle de Joseph, de Marie avec leur enfant, vous voyez. Mais ne fuyez pas parce que vous avez peur. Vous ne devez pas avoir peur. Le Saint-Esprit est avec vous. Et l'amour parfait bannit la crainte. Si vous fuyez à cause de la peur, c'est que vous n'avez pas compris la force de l'amour. Et ça signifie que vous n'êtes pas sage. Vous voyez, la fuite, comment elle est interprétée par les autres? Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est pour vous que vous sachiez est-ce que je fuis parce que j'ai peur ou est-ce que je fuis parce que je suis sage. La Bible nous parle énormément de renoncement, mais nous parle également beaucoup de persévérance. Alors, la persévérance peut être favorable, mais si on confond la persévérance avec l'insistance, on fait preuve de manque de sagesse spirituelle. D'insister, de s'imposer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les batailles qui durent plus qu'il ne faut, elles finissent par détruire l'enthousiasme nécessaire à la reconstruction. Dans toute bataille, il y a toujours des dégâts. Et si ça dure trop longtemps, ça détruit l'enthousiasme nécessaire à la reconstruction. Il faut savoir se retirer, il faut savoir renoncer. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Je vous le dis, on ne peut pas aller plus bas que l'état actuel. Et cet état, là-bas, eh bien, c'est l'état de l'Église dans ce monde. Alors, que doit faire un vrai sage? Jésus le dit, sortez du milieu d'eux. C'est celui qui est le plus spirituel qui sort. À moins qu'il sorte par rébellion, à moins qu'il sorte pour satisfaire ses instincts inférieurs. Ben, c'est autre chose. Vous savez, dans ma vie chrétienne, j'ai croisé beaucoup de gens qui, par amour ou par orgueil, voulaient m'enseigner des choses. Et depuis 68, mon œil a eu le temps de s'exercer. J'ai appris à distinguer l'ami du manipulateur. Des vrais sages, j'en ai rencontré très peu. J'en ai rencontré 7. T.L. Osborne, Raphaël, Vikram Seth, Camélia, David Wilkerson, Bill William et Jules Marcel Nicole. 7 personnes. Et ils avaient tous un point commun. Aucun d'eux n'enseignait le chemin idéal, mais ils m'ont montré les nombreuses voies d'accès vers la route que je devais parcourir pour rencontrer mon destin. Et c'est ainsi que j'ai compris que Jésus a donné sa vie à notre place et que nous devons nous garder en vie. Et donc savoir éviter ce qui nous menace. Ces sept sages m'ont appris que rien n'a de commencement et que rien n'a de fin. Et que par conséquent, je n'ai pas à m'angoisser. Juste, je dois lutter pour mes convictions, mais sans vouloir rien prouver à personne. Je vous enseigne. Vous écoutez, que vous le vouliez ou pas, moi je garde mon niveau de paix intérieure, que vous vouliez de cet enseignement ou pas, je garde mon niveau spirituel intérieur. Je ne veux pas dire que ça m'est égal si vous ne voulez pas. Ça me fait un peu de peine, c'est certain. Jésus regarda le jeune homme s'en aller, il était tout triste et il l'aima. Mais il ne lui a pas couru derrière. Et je garde mon niveau intérieur, spirituel, pourquoi ? Parce que j'ai eu le courage de choisir mon destin. Mais je ne l'ai pas choisi le premier jour de ma conversion, hein. Et cela, ça vaut aussi bien pour l'amour que pour la guerre. Comprenne qui pourra. Je vais vous dire aussi une chose que j'ai apprise au travers de ces sept sages. Excusez-moi, je parle un peu à bâton rompu au sujet de ces enseignements que Jésus donne, au sujet de celui qui est le plus grand. Voilà. L'enseignement que Jésus donne a de la valeur. Ça, on est tous d'accord. Alors Jésus nous présente son enseignement et certains pensent que ça va leur coûter trop cher de le mettre en pratique. Alors Jésus les laisse, et puis il revient quelque temps plus tard avec un enseignement moindre. Hein, il parle de nourriture solide, mais il parle aussi de lait, etc., etc. Vous ne pouvez pas encore manger de la nourriture solide, vous en êtes encore qu'au lait, etc. Alors Jésus, voyant qu'ils ne peuvent pas manger cette nourriture solide, il revient quelque temps après, et puis il leur présente un enseignement moindre, mais qui a toujours la même valeur. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça veut dire que son enseignement coûte toujours le même prix. Que ça soit moindre ou pas, ça coûte toujours le même prix. Alors, certains vont dire, mais c'est pas juste. C'est la justice de Dieu. C'est comme ça que Dieu est juste. La justice de Dieu n'a pas grand-chose à voir avec la justice humaine. Elle est beaucoup plus élevée que ça. Elle paraît injuste très souvent à ceux qui se croient justes. Ce n'est pas le message de Jésus qui perd de sa valeur. C'est celui qui ne veut pas payer le prix qui perd de sa propre valeur. Parce qu'il ne veut pas renoncer, parce qu'il ne veut pas se donner, parce qu'il ne veut pas être humble, alors il perd de sa propre valeur et finalement, il vaut plus rien à la fin. Réellement, il y en a qui vont jusqu'à tout perdre. Un vrai sage, il fait comme son maître, c'est-à-dire comme Jésus. Il donne le meilleur. Et puis arrive un moment où on lui dit, mais tu nous gaves. Moi, on me l'a dit, hein, tu nous gaves. Alors, s'il voit que le meilleur n'est pas désiré, il donne un peu moins, et puis encore un peu moins, puis finalement, il ne donne plus rien. Il s'en va. Comme Jésus, il ne perd pas de sa valeur spirituelle, pas du tout. Ce sont ceux qu'il sert qui ne savent pas apprécier la valeur du service qu'il leur est donné. C'est à l'envers la même chose que l'autre qui
est servi par un serviteur zélé, mais qui cherche à le perdre, il ne comprend pas la nature de son serviteur. Et beaucoup de gens ne comprennent pas la nature de leur serviteur. Ils ne voient pas que c'est pour leur bien, que l'enseignement leur est donné pour leur moi supérieur. Alors ils s'en détournent. Comme les autres ne voient pas que ce qui est fait, c'est fait pour attiser leur moi inférieur. Ils ne le voient pas. Qui est le plus grand dans l'histoire ? Vous voyez pourquoi Jésus dit que celui qui est grand ne se fasse le serviteur de tous ? Alors Jésus, il se vexait pas, il se retirait, il allait ailleurs et tout le monde était content. Ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ce qui compte, voyez-vous, c'est de savoir qui on est. Si tu es sage, tu l'es et ton fruit existera pour l'éternité. Peu importe ce que les gens pensent, toi tu sais. Tu sais, puis tu as déjà vu les fruits, et puis voilà. Si tu n'es qu'un disciple, si tu n'es pas un sage avec la possibilité d'enseigner, etc., mais c'est bien d'être un disciple. Camélia, elle disait toujours, une des sages, là, une des sept sages, elle disait, mais mon fils, dans l'armée, il n'y a pas que des généraux, il y a aussi des troufions. Parce que s'il n'y a pas de troufion, qui c'est qui va manger la soupe ? C'était sa façon de me dire les choses et de me les faire comprendre. Ça m'a beaucoup aidé parce que c'était simple, je pouvais comprendre. Si tu es un disciple, une personne qui apprend la sagesse, mais tu es un disciple. Et si tu persévères, Jésus dit que tu deviendras comme ton maître. Comme un des sept sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer dans ma vie. Je prétends pas être arrivé à la cheville de l'un d'eux, mais il me reste encore un peu de temps, j'espère. Ce qui m'étonne beaucoup depuis toutes ces années de vie chrétienne, c'est le nombre de personnes qui se préoccupent de vouloir être ce qu'ils ne sont pas. Mais quel plaisir ont-ils à se ridiculiser de la sorte ? Pour moi, ça, c'est un mystère. C'est plus grand que le mystère de la Trinité, pour moi, ça. Ces balourds qui se prennent pour des prophètes intergalactiques ou des grands évangélistes de machin patin couffin, alors que c'est un vrai sens. Pour moi, c'est un mystère. Et quel plaisir ont-ils à se ridiculiser de la sorte ? Soyons humbles. Et le Saint-Esprit de promesse sera avec nous, accomplissant des miracles. Cette semaine, gloire à Dieu, j'ai pu vivre encore 3 miracles. C'est magnifique. J'aime bien ça parce que ça me donne du courage. Je dis, ah, il est avec moi, c'est merveilleux, gloire à Jésus, alléluia, merci Seigneur. Je suis pas seulement que attristé, n'est-ce pas, par ceux qui comprennent rien du tout, mais il y a cette communion avec Dieu qui se manifeste d'une façon surnaturelle, pas simplement naturelle, pas avec les choses de l'âme seulement, mais avec l'esprit, le surnaturel. Et ça, c'est quelque chose qui confirme la parole qui est donnée, qui est enseignée. Bon, ben les autres, ma foi, ils ont leurs illusions jusqu'au jour où leur énergie sera épuisée, voilà. Alors, comme Jésus le dit, veillons et prions. Sachez qui vous êtes. N'essayez pas d'être la personne que vous n'êtes pas. Vous allez dans le mur si vous faites ça. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'ai pas dit. Voilà, je vais m'arrêter là. Quelle que soit votre difficulté, à vous qui m'écoutez là, sur le net, vous allez trouver, en réécoutant ce message, avec humilité, avec une bonne disposition, quelle est la meilleure attitude que vous devez avoir manifestée dans votre difficulté. Dans votre difficulté. Nous avons tous des difficultés. Mais il y a des clés Et là, je vous en ai donné 3. Mais est-ce que vous les avez saisis? J'espère et je prie de tout mon cœur. Seigneur, je te prie que tu aides mes frères et sœurs à comprendre les choses que je leur dis, que je leur répète inlassablement par amour. Et Seigneur Jésus, je sais qu'il y aura bien toujours quelqu'un qui va le comprendre et qui va pouvoir avoir sa vie bouleversée, changée et devenir véritablement utile aux autres et tout à ta gloire. Dans le nom de Jésus, je te le demande, mon Père. Amen. Amen. Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.